France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Un jour, le méchant Sébé, encore assez près de sa source, se lassa de n'être qu'un limpide ruisseau. Il demanda des neiges aux montagnes, des eaux aux torrents, des pluies aux tempêtes, et il franchit ses rives et désola ses bords charmants. L'orgueilleux ruisseau s'applaudit d'abord de sa puissance. Mais voyant que tout devenait désert sur son passage, qu'il coulait abandonné dans la solitude, que ses eaux étaient toujours troublées, il regretta l'humble lit que lui avait creusé la nature, les oiseaux, les fleurs, les arbres et les ruisseaux, jadis modestes compagnons de son paisible cours. Voilà ce que nous dit René de Chateaubriand. C'est un mélange de la terre et des eaux que le roseau et le saule dominent de leur frêle stature. Le marécage entremêle le vent et la fange, l'eau et l'herbe dans son inextricable univers. De tout temps, les marais ont paru mortifères. Quels absurdes tombeaux scellaient donc leur confusion végétale. La boue inévitable ne produit rien, dit-on, et le flux revient sans cesse inonder les herbages. L'histoire des zones humides se confond souvent avec l'histoire de leur assèchement, de leur assainissement, de leur drainage. Car le marais est le lieu de la lutte contre lui-même, contre l'isolement qu'il confère, contre son palidissement endémique, contre sa foisonnante végétation si inutile, contre son flot récurrent et même contre sa lenteur romantique. Les champs inondés ont connu leur domestication en prairies sèches, en cultures intensives, quand ce n'est pas en lieu désolé, en empirement, et même une transformation en quartier résidentiel ou en aéroport. À croire que le vent et l'eau incitent à modifier les choses. Mais de tels bouleversements de la nature ne sont pas sans conséquences, on le sait. Le marais se venge, la rivière déborde et le souffle des tempêtes abat les fragiles constructions humaines. On a souvent cédé la barque silencieuse qui glissait sur le canal, débusquant le héron pourpre et laissant filer la loutre trop loin. Cependant, que croit-il conquérir à assécher ces lieux de brouillards et de bruines ? Sait-on que les marais sont les milieux écologiques les plus productifs du monde ? Connaît-on leur incroyable rôle comme pouponnière de la faune piscicole ? Et bien sûr, commence-t-on à comprendre enfin, de la petite mare à grenouilles jusqu'au lit majestueux de la Loire, entre les prairies humides et les forêts ripariales, le sort de la crue se joue. Loin du seul romantisme de la masure en chaume, quand le vol secret de la libellule se confond dans la brume du canal, le marécage absorbe et construit la renaissance de la nature. Car le grand débordement des eaux commence entre les roseaux qu'on abîme. Et il n'est pas certain que le modernisme soit de les détruire. Nous allons parler des zones humides, de leur écologie, de leurs aménagements, de leur poésie aussi, et de leur humanisation, puisqu'il n'est pas un amoureux qui, marchant près des rivières ou s'égarant dans les marais, n'a pas immédiatement ressenti le frisson d'appartenir au monde. Alors, entre loutres et papillons, commençons donc notre voyage scientifique pour savoir de quoi les zones humides se vengent-elles.
C'était Dan Arbraz. Bonjour à tous sur 89.4 et sur Internet, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle. Science en liberté, animée par Thierry Laudet. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les zones humides. Thierry, tu as développé une grande connaissance de ce milieu particulier et de ses habitants. D'ailleurs, tu t'y es investi à divers titres que je peux énumérer, tels que responsable et membre de sociétés naturalistes, participation à des restaurations, telles que la zone humide de l'île d'Héron, vice-président patrimoine régional naturel, collaboration sur différents programmes internationaux et impliqué dans différentes thèses sur la restauration. Tu as travaillé donc sur des zones humides depuis longtemps et publié divers travaux sur différentes espèces comme le putois, le vison d'Europe, la loutre, le castor, et tu as notamment créé le master zone humide à l'université d'Angers en 2000 en tant que prof d'université. Alors Thierry, tu vas pouvoir nous présenter quelles sont les caractéristiques des zones humides.
Alors bonjour Siona, oui, après cette énumération, on a l'impression de sombrer dans la zone humide directement. Les zones humides, c'est effectivement des milieux tout à fait remarquables. D'abord, c'est le seul milieu écologique qui soit l'objet d'une convention internationale, la fameuse convention Ramsar, conservation des zones humides, qui les protège, et montre à quel point les zones humides sont un milieu particulier, extraordinaire. Il n'y a pas d'autres milieux qui ont fait l'objet d'une telle convention, que ce soit des forêts primitives, que ce soit des océans. Mais pour l'ensemble des zones humides de la planète, c'est la seule chose qui existe.
Alors pourquoi ? Une certaine valeur exceptionnelle.
Voilà, parce que ce sont des milieux totalement exceptionnels qui regroupent tout un ensemble d'éléments particuliers, mais à chaque fois, on y retrouve l'influence de la terre et de l'eau. Et ces deux influences conjointes de la terre et de l'eau vont évidemment générer une situation tout à fait extraordinaire. Alors ces caractéristiques de ces zones humides sont difficiles à énumérer parce que ça dépend beaucoup de ce que c'est qu'un lieu humide. Considère comme zone humide en général des ensembles peu profonds qui possèdent des sols hydromorphes et qui surtout, évidemment, ont cette caractéristique d'avoir des inondations périodiques.
Il existe différents types de zones humides.
Alors, il existe en effet différents types de zones humides selon qu'on a affaire à des eaux salées, des eaux saumâtres, les estuaires par exemple, les lagunes, les vasières, mais aussi bien sûr les mangroves. Il y a aussi tous les milieux palustres dulcicoles, c'est-à-dire à eau douce, qui sont en général alimentés par des eaux de surface ou par des nappes phréatiques, ou encore on y retrouve là les tourbières. Et puis il y a toutes les annexes fluviales, les ruisseaux, les gravières, les forêts ripariales, les prairies inondables, les deltas, tout ce qui va faire aussi la ripisylve. Et puis enfin pour finir, il y a tous les milieux lacustres, depuis la mare jusqu'au lac, avec toutes les zones littorales et notamment bien sûr les zones artificielles qui vont être créées par des retenues comme par exemple les étangs, des piscicultures ou encore les lacs de barrage. Il y a vraiment beaucoup de lieux qui sont des zones humides. C'est probablement le milieu le plus commun, qu'on soit en montagne avec les ruisseaux, les torrents, les tourbières, qu'on soit dans les plaines avec les marais, les étangs saumâtres du bord de la mer, qu'on soit, mais aussi qu'on soit dans des vallées encaissées ou dans des grandes plaines. Il y a des lacs de plaine qui font aussi partie des zones humides. Enfin, il y en a vraiment partout. Mm-hmm. C'est aussi pour cela que c'est important. Et en plus, non seulement elles sont présentes partout, mais elles ont aussi une dynamique essentielle au reste des milieux, puisque ce sont des ensembles qui vont générer ce contact entre l'eau et la terre et qui vont aussi participer, bien sûr, de toute la régulation de l'eau.
Quelles sont leurs fonctions ?
Alors tout à fait, c'est à ce titre-là dont on peut parler de l'importance écologique des zones humides, c'est qu'elles ont trois fonctions essentielles. On va dire que l'une des fonctions les plus connues, c'est probablement l'épuration des polluants, c'est-à-dire que les zones humides fonctionnent encore en gros comme des sortes de grands lagunages. Elles assurent la rétention des éléments, la transformation des intrants qui sont dissous, qui sont solides. Elles assurent cette répartition, leur dispersion et également leur concentration selon les endroits. Mais cette épuration des polluants est un phénomène absolument extraordinaire. C'est principalement lié à l'eutrophisation de ces milieux, à la présence de bactéries, à tout un ensemble d'éléments qui vont décomposer les éléments organiques aussi.
L'eutrophisation, c'est-à-dire que c'est des résidus qui restent.
L'eutrophisation, c'est le fait que ce sont des milieux qui souvent manquent d'oxygène parce qu'ils ne sont pas renouvelés de manière périodique, mais ils ne sont pas renouvelés de manière immédiate comme les torrents sont des milieux lycotrophes, les étangs sont des milieux eutrophes, par exemple. Mm-hmm. Et donc ce système permet aux bactéries de bien travailler, de faire un travail absolument incroyable d'épuration. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'en général, on fait l'épuration de pas mal d'endroits, puisque le plus souvent, souvent, l'épuration traditionnelle de nos eaux usées se fait justement par des systèmes de lagunage artificiel. Mmh. Donc on voit que le système zone humide va avoir une importance capitale pour la qualité de l'eau douce de notre pays. Il y a d'autres fonctions, bien sûr. La deuxième fonction, c'est la productivité incroyable de ces zones humides, puisque ce sont évidemment des secteurs qui vont marier, là encore, l'eau et la terre dans des petites, avec une petite profondeur. Donc le soleil va pouvoir jouer à plein, mais aussi évidemment les écoulements. Ça va être des très grandes surfaces. Et donc ce sont des véritables pouponnières pour les poissons, pour les amphibiens, et qui assurent également une très grande productivité végétale. Ce sont en fait les milieux les plus productifs qui existent au monde. Une zone humide, c'est plus productif qu'un champ de blé intensif.
Hein, ah oui, c'est une sacrée réserve.
En quantité de biomasse, c'est assez extraordinaire quand on considère les insectes, les poissons, les crustacés, enfin tout ce qu'il peut y avoir dessus, depuis la rainette en passant par l'anguille, évidemment les perches qui vont se nourrir de toutes sortes de petits crustacés. On a aussi énormément de plancton, on a beaucoup de végétaux qui sont spécialisés sur les zones humides, et qui confère à ces milieux une productivité absolument époustouflante et souvent totalement ignorée. Même la qualité des herbages est meilleure dans les zones humides, à condition évidemment de pouvoir les récolter au bon moment, mais elle est d'une meilleure qualité nutritive que beaucoup d'autres herbages, sans compter bien entendu cette grande réserve de biodiversité que les zones humides possèdent.
Comment en fait ça s'organise, oui, tout ça?
Alors juste avant, je voulais dire qu'il y a une troisième fonction qui n'est pas négligeable, évidemment, à part la réserve de biodiversité et la fonction d'épuration, c'est aussi l'élément important, c'est la régulation des eaux. C'est-à-dire que les zones humides vont servir de tampon, vont servir d'éponge à tout ce qui peut être essor des eaux, c'est-à-dire en fait les montées des eaux, les crues. Elles vont garder en stock des quantités astronomiques d'eau qu'elles vont libérer petit à petit, puisque ce sont des zones qui servent en quelque sorte d'éponge et qui vont s'assécher petit à petit, lentement. Donc ce système-là permet de réguler les crues, permet d'éviter les étiages. Le principe même de la zone humide, c'est effectivement de laisser s'écouler l'eau et de la laisser repartir. Mmh. Voilà pourquoi le plus souvent, quand on regarde une zone humide, on voit soit une sorte de marais complètement plein d'eau, on dirait un lac, soit on regarde un endroit donné et on s'aperçoit que c'est complètement sec. C'est logique, c'est la dynamique de la zone humide que d'avoir de l'eau à des moments donnés, de ne plus en avoir à d'autres. Et c'est cette régulation-là qui permet aussi l'épuration, l'accueil de la biodiversité, mais qui va permettre aussi de relargage d'eau au moment opportun pour les rivières, pour l'été notamment, enfin c'est évidemment des zones importantes.
Ça fluctue donc beaucoup. Et donc quelle organisation en fait? On parle d'une organisation hiérarchique.
Oui, c'est important de comprendre que tous les hydrosystèmes, tout ce qui est en fait le niveau d'écoulement des eaux, se présente sous une forme d'organisation hiérarchique. Pourquoi? Tout simplement parce que le petit ruisseau va donner la grande rivière en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a au départ des éléments, des petits écoulements, des petits fossés, des petits ruissellements, qui vont petit à petit donner des petits ruisseaux, qui vont donner des torrents, qui vont donner des rivières. Ces rivières vont donner par la suite tout un ensemble de choses. Les zones d'eau qui sont au bord des rivières, je pense par exemple aux boires ou encore aux étangs qui vont se former lorsqu'il y aura des ruptures avec le flot principal, avec le flux principal des eaux. Le lit peut aussi varier, ce qui fait qu'il va y avoir des zones où il va y avoir des stockages d'eau, des lacs, des choses de ce genre, des mares. Et tous ces éléments-là participent à un grand ensemble, soit de manière souterraine, parce que l'écoulement des eaux se fait aussi à travers la terre, de manière souterraine, par les simples terriers de taupe, ça permet de faire déjà circuler l'eau. Et donc tout ce système des eaux, à travers champs, à travers bois, finit par converger jusqu'à la mer, où évidemment le flux va s'arrêter. Alors ce système hiérarchique fait qu'on peut parler de bassins versants qui vont évidemment contenir toutes les zones humides, depuis encore, il faut bien se représenter ça, depuis la petite mare, la petite bouillasse qui est présente dans...
La petite flaque d'eau.
Quasiment la petite flaque d'eau qui est présente dans votre jardin, jusqu'à un autre niveau. Tout ça participe aussi bien à la régulation des crues qu'au maintien de la biodiversité ou encore qu'à l'épuration. Chaque fois à son niveau, n'oubliez pas que dans une simple goutte d'eau, il peut y avoir des millions de bactéries qui vivent.
Alors, d'où leur importance au moment des crues, en fait, la fonction de régulation dont tu parlais.
Alors, c'est effectivement un élément essentiel du cycle hydrologique, puisque cette capacité à retenir l'eau et à le laisser s'écouler lentement, petit à petit, correspond évidemment à un maintien d'un cycle hydrologique complet, et ça régule totalement. Alors, la régulation ne fait que limiter l'amplitude des crues. Il ne faut pas oublier, bien sûr, que le principe même de la zone humide, c'est d'absorber la crue. C'est-à-dire que si vous avez un champ, il va forcément se remplir d'eau. Donc, évidemment, il y a bien une crue. La question, c'est que si on ne laisse pas ce champ libre de se remplir d'eau, si on ne pense pas qu'il peut servir à ça, eh bien, évidemment, du coup, on y met une maison, on y met autre chose, et on a une vraie inondation. En plus, le fait qu'il y ait de l'eau sur de la terre, ça va servir, évidemment, pour des zones pour les alevins, des zones de nourrissage pour les oiseaux. Et en plus, ça sert aussi aux bactéries à se nourrir, puisque ce principe-là va fonder, en fait, tous ces éléments de nettoyage des eaux, de filtration, etc., qui vont avoir un rôle essentiel dans l'ensemble du cycle hydrologique. Donc c'est bien entendu ce cycle hydrologique principal qui va jouer avec le lit majeur, avec sa plaine d'inondation pour la rivière, le lit mineur, le lit d'étiage, et puis tout ce qui va être ce qu'on appelle les annexes fluviales, ou encore même les terrasses fluviales, qui vont voir s'écouler l'eau d'une manière plus rapide, pendant des moments plus courts, mais qui seront quand même ravinées par ces écoulements d'eau, et qui vont encore entraîner un dispositif écologique particulier. Et puis les annexes, ce sont les étangs, les mares, les boires, les éléments qui vont être coupés du lit de la rivière, mais qui se retrouveront liés, soit de manière souterraine, puisque ça va soit s'assécher, soit découler, ou soit tout simplement au moment des inondations, qui vont se retrouver réassociés à nouveau avec l'ensemble de la rivière.
For you to tell the truth most dire. There lurks a traitor in our midst who hath invoked the captain's ire. Don't deserve no mercy, we ought to shoot him with a gun. But I am not an evil man, so first let's have a little fun. We'll tie that scoundrel to a rope and throw him overboard. Drag him underneath the ship, a terrifying deadly trip. Kill all that filthy landlubber, send him down to the depths below. Make that bastard walk the plank with a bottle of rum and a yo-ho-ho. Kill all that filthy landlubber, send him down to the depths below. Make that bastard walk the plank with a bottle of rum and a yo-ho-ho.
Yeah.
C'était Alice Storm qui nous menait en bateau.
Tout à fait, quel dynamisme. Nous étions à la fonction hydrologique. Tu peux développer un peu ?
La fonction hydrologique des zones humides, car nous sommes ici sur une émission sur les zones humides notamment. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonction hydrologique ? Eh bien on le sait, c'est qu'il faut évidemment maintenir les flux de manière régulière, pour éviter qu'il y ait trop d'eau à un moment donné et pas assez d'eau à d'autres moments donnés. Alors ce n'est pas une chose qui a été inventée par les humains, c'est quelque chose qui se génère naturellement à travers l'écoulement de l'eau dans les différents systèmes qui vont la ralentir ou pas. D'où l'importance, évidemment, d'essayer de restaurer cette fonction hydrologique pour éviter les crues. Alors, il y a pour cela tout un ensemble de choses, des modèles mathématiques, par exemple, qui permettent de montrer comment les épisodes de pluie intense peuvent être régulés, limités en général. Grosso modo, hein, quand on a un épisode de pluie intense, un épisode Cévenol par exemple, on se retrouve à avoir un hydrogramme extraordinairement pointu. Il y a une courbe, ça veut dire que la courbe monte, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'eau, et ensuite, évidemment, ça va mettre très longtemps à redescendre, puisque le sol est saturé et l'ensemble des éléments vont empêcher les écoulements tranquilles de l'eau. Souvent, les politiques réagissent à ça en générant un flux plus rapide, en essayant d'enlever les obstacles dans les cours d'eau, de faire que tout s'écoule le plus vite possible et le plus loin possible. Le problème, c'est que c'est évidemment renvoyer toujours le problème plus loin. Et plus on avance vers l'aval, et plus évidemment les quantités d'eau deviennent énormes, et plus c'est très difficile de les régler et de les réagir. Alors voilà pourquoi je parle de modèle mathématique, parce qu'en fait, une rivière, ça fonctionne dans une dimension fractale.
Allons-y, on est
dans la science. Hein, la mesure fractale, c'est un delta de log sur un delta de log inversé.
C'est très joli.
Voilà, c'est très joli, dit comme ça. Ça veut dire, par exemple, que si on a trois rivières qui vont donner une, qui vont diminuer, qui vont se multiplier par deux à chaque fois, eh bien, on a une dimension log 3 sur log 2, et puis ça génère notre calcul, qui est un delta. Voilà. Donc, cette dimension fractale veut dire simplement que les petits ruisseaux font les grandes rivières, vous voyez. C'est cette dimension hiérarchique.
Il
faut rappeler ce que c'est que la géométrie.
Des ramifications, en fait, de petits cours d'eau qui vont vers du grand, en fait.
Voilà. L'idée de la géométrie fractale qui nous permet de mesurer ces choses-là est ultra simple. On va juste faire une petite échappée là-dessus. C'est expliquer qu'en fait, on connaît ce que c'est qu'une surface, on sait ce que c'est qu'une ligne. Une ligne, on peut considérer que c'est un mètre à la puissance 1. Un mètre carré, c'est un mètre à la puissance 2. Et puis un mètre cube, c'est un mètre à la puissance 3. Eh bien, la dimension fractale nous rappelle simplement qu'entre la puissance 1 et la puissance 2, ben, il y a des ramifications.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est plus tout à fait de la ligne, mais ce n'est pas encore de la surface. Entre la surface et le cube, ben, il y a encore d'autres réalités qui sont des éléments globulés. Par exemple, vous prenez un rocher, eh bien, il n'est évidemment pas vraiment... ce n'est pas un cube, c'est au contraire plein de petites choses, de bosses et autres choses. Donc, c'est ça qu'on appelle une dimension fractale.
Mm-hmm.
Alors quand elle se répète, évidemment, la fractalisation est assez normale. Et chez les rivières, c'est assez facile de mesurer cette géométrie fractale qui est une ramification. Les petits ruisseaux donnent les grandes rivières. Et donc, il suffit à partir de là d'élaborer un modèle densité de probabilité en ajustant des paramètres qui nous permettent de faire un calcul pour comprendre à quel moment la crue va venir. C'est-à-dire quand est-ce que les petits ruisseaux vont être tellement surchargés que la rivière...
Oui, ça permet de modéliser, en fait.
C'est parfait, c'est facile comme tout à modéliser puisqu'il s'agit d'additionner des choses. Et en fait, on s'aperçoit très bien que si c'est en amont qu'on régule, c'est-à-dire que si on remplit toutes les petites mares, puis tous les petits ruisseaux, et qu'on laisse ces petits éléments à se remplir, ben, il y aura moins d'eau à l'aval, donc on va réduire la crue. Le système est donc relativement simple, hein, il suffit d'élaborer, de restaurer en quelque sorte toutes les zones humides qui vont être en amont, de conserver leur fonctionnalité, leur lien avec le ruisseau, avec la rivière, avec le fleuve et avec les autres zones. Évidemment, tous ces éléments-là vont le faire. Souvent, les hommes politiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous prédisent qu'une crue va arriver à un endroit donné, et donc ils vont faire un réservoir, ils vont creuser un immense réservoir pour stocker le maximum d'eau. Évidemment, ce réservoir peut se retrouver saturé. Ça peut marcher lors des petites crues, ça peut fonctionner pendant pas mal de temps, mais lors des grandes crues centennales, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et si ces zones sont importantes, ces rétentions d'eau sont importantes, les faire de manière artificielle n'a aucun sens puisqu'elles existent déjà dans la nature.
Il faudrait pouvoir respecter l'endroit
où elles s'écoulent naturellement. Mmh. Le problème, c'est que souvent, ces endroits où elles s'écoulent naturellement, eh bien, on s'en est servi au cours du temps pour faire un camping, un terrain de football, voire même un quartier de résidence ou encore des aéroports. Et on fait ces choses-là sur ces milieux-là, ce qui évidemment, après, fait qu'on découvre au bout d'un moment, bah tiens, voilà, y a des maisons qui sont inondées. Les crues se vengent, les zones humides se vengent d'avoir été utilisées, d'avoir été perturbées, d'avoir été détruites.
Donc là, on pourrait peut-être justement arriver au fait de se poser la question des perturbations qui pèsent sur les zones humides. Il y en a beaucoup.
Alors oui, parce que ce sont des milieux qui font effectivement juste entre les activités humaines et les activités naturelles. Imaginez par exemple un estuaire, on peut prendre l'estuaire de la Loire, qui est effectivement très, très facile à repérer. Dans cet estuaire, on a tous les grands bateaux, tous les grands cargos qui arrivent, mais donc les méthaniers, les pétroliers, tout ça, donc ils ont besoin d'infrastructures portuaires qu'on va installer sur les vasières, qu'on va installer sur les zones humides qui sont à proximité. Mais en plus de ça, il y a évidemment toutes les périodes touristiques. Donc là encore, on va assécher les zones pour empêcher les moustiques de venir, etc. Enfin, on va utiliser énormément les zones humides. Et à force de les utiliser, on va faire des peuplerets. Évidemment, à force d'utiliser les zones humides, ben, on les détruit, on les réduit. Alors, toute la question va être évidemment d'identifier toutes les menaces qui pèsent. Et elles ne sont évidemment pas neutres. La première chose, c'est la conversion en terre drainée pour l'agriculture, la maïsiculture, la populiculture, enfin faire
récupérer de la terre à tout prix.
Récupérer de la terre qui est de bonne qualité, hein, on le répète, mais qui va vite s'abîmer, évidemment, parce que du coup, les crues ne fonctionneront plus pour apporter le limon et les matières valides. Il y a l'urbanisation, parce que les zones humides sont aussi, les villes sont installées près des zones humides, puisqu'elles sont installées sur des rivières, le plus souvent, pas loin des marais. Et donc, toute cette urbanisation, bah, s'étend. Hein, quand on regarde la carte, par exemple, de l'urbanisation d'une ville comme Mumbai, en Inde, on s'aperçoit que c'est considérable, hein, ça s'est multiplié, ou Tokyo, hein, qui est tellement... rappelons-nous simplement du petit village qui était Los Angeles, et ce qu'il est devenu maintenant comme milieu urbain. Et là aussi, c'est en plein dans les zones humides, c'était autour de la petite rivière qui n'existe plus maintenant à Los Angeles, elle est complètement fermée. Comme ce sont des lieux où la rivière va être ralentie pendant très longtemps, on a aussi une autre menace qui est l'eutrophisation, c'est-à-dire que les eaux peuvent aussi connaître beaucoup de problématiques bactériennes, beaucoup de problématiques de maladies, c'est aussi dans ces eaux-là que les moustiques vont pouvoir se placer. Cette eutrophisation, ça peut être un bon, hein, c'est simplement que c'est surchargé en matière organique, donc ça peut être très nourrissant, mais en même temps, il faut laisser les bactéries travailler et il faut du temps pour que les choses se passent.
Il faut qu'elles fassent le mélange.
Voilà. Ensuite, il y a le problème de l'abaissement des niveaux à cause des pompages, parce qu'évidemment, si les humains sont à côté, ben c'est pour pomper. On parlait tout à l'heure, par exemple, du secteur de Donge. Bon, ben, pour laver les bateaux qui arrivent, on les lave avec de l'eau douce, donc on reprend d'eau dans les rivières, dans les zones humides, on pompe ça où on peut pour essayer de renettoyer les bateaux. L'eau va repartir d'une manière, va être salée, elle va être transformée. En plus, on abaisse les niveaux, puisque souvent l'agriculture a aussi besoin de pompage pour réussir à cultiver, pour faire pour le maïs notamment. Et puis, il y a enfin le dernier point qui est loin d'être négligeable, qui est celui de la fragmentation. C'est-à-dire qu'on a un émiettement complet de tout le parcellaire qui fait qu'à tel endroit donné, on a construit un barrage, on a construit un pont, on a construit des tas d'obstacles qui vont finalement faire que toute la fonctionnalité globale de la zone humide associée aux rivières, aux torrents, aux mares, etc., va être fortement perturbée.
On peut donner l'exemple du marais Poitevin, qui donne une évolution de la zone humide qui existait. Tu peux en parler, tu as fait pas mal de travail là-dessus.
Alors oui, j'ai pas mal collaboré à des études sur place pour voir un peu ce qu'il en était. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le Marais Poitevin, ça a été longtemps un parc naturel régional. C'est-à-dire que c'était une entité qui était considérée comme touristiquement intéressante et qui était considérée comme protégée. Et en fait, ça a été un fiasco monumental. Le biologiste du parc a plutôt laissé faire tout un ensemble d'interventions. Et notamment
les pressions politiques qui étaient peut-être
Il y avait
simple.
Des pressions politiques, il y avait des raisons à ça, mais en tout cas, ça a fait qu'on a eu ce parc naturel régional qui a dû être abandonné parce que le transfert des milieux avait été considérable. C'est-à-dire qu'on est passé d'une zone humide vraiment très très, très, très belle. Hein, le Marais Poitevin, c'est un milieu magnifique qui a toujours été utilisé par l'homme, qui a été retravaillé par les moines depuis le haut Moyen-Âge. Donc c'était en quelque sorte grâce à cette excuse qu'on pouvait dire, puisqu'il a toujours été anthropisé, continuons le combat, si je peux dire. Et donc on a fini par placer plein de maïsiculture, hein, c'est surtout les maïsiculteurs qui ont fait ça, qui ont provoqué cet assèchement. On a généré un drainage absolument incroyable et en quelques années, alors qu'il était théoriquement protégé officiellement par le statut de parc naturel régional, en quelques années, le parc naturel régional du Marais Poitevin a été tellement perturbé que le ministre ne pouvait plus le reconnaître. Et ce sont pourtant des gens, des politiques qui sont très à l'aise pour dire qu'on protège les milieux. Eh bien, on n'a pas pu le reconnaître comme tel. Et depuis lors, il n'y a plus que la partie la plus conservée, la Venise verte, qui est à peu près restée intacte, alors que le marais a été asséché sur sa plus grande partie et il a été détruit, hein, en quelque sorte.
Alors, Destruction, il y a d'autres exemples.
Oui, les zones humides sont forcément détruites parce que d'abord, évidemment, on a besoin d'exploiter la tour, on a besoin d'exploiter, on fabrique des carrières à des endroits donnés, on enlève le sable, on creuse à des tas d'endroits pour les carrières, par exemple, et puis on fabrique des infrastructures, des routes, des aéroports, des ponts. On fait souvent des chenalisations des cours d'eau lorsqu'on a une autoroute ou lorsqu'on a un élément quelconque. On essaye de faire couler l'eau dans des buses en béton, ce qui va évidemment accélérer la vitesse du courant et puis diminuer la capacité à envoyer beaucoup d'eau. Et puis, bien sûr, on le répète, c'est surtout le morcellement, la fragmentation de ces zones humides qui empêche leur fonctionnalité.
Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the P-Row down the bayou. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick it tough, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Tippy doors, the farting nose, the place is buzzing. Kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dress in style and go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
Voilà, c'était Hank Williams qui se prenait un petit jambalaya sur le bayou.
Il faut dire que le bayou est un marais aussi bien spécifique, où il y a des cultures bien spécifiques dans tout cela.
Alors c'est intéressant de bien comprendre que le marais est un milieu relativement isolé, de par les canaux, de par les rivières, on parle même d'îles hein, dans différents milieux, et que chacun de ces marais a petit à petit construit, fait émerger une culture particulière pour ses habitants. Les habitants du marais ont une vie relativement dure, mais qui est forcément faite au fil de l'eau. Alors voilà par exemple les bayous de Louisiane avec toute leur ambiance particulière, avec la présence des Cajuns, la musique particulière, la manière de vivre, hein, c'est un peu ça dont nous parlait Hank Williams en nous racontant comment on peut manger de la balle porc à l'ananas et tout un ensemble d'autres plats particuliers. Mais on peut penser aussi à la Grande Brière, par exemple, dans le nord-ouest de la France.
Brierons maître chez soi,
avec un marais indivis qui n'appartient à personne et à tout le monde en même temps, ce qui est une caractéristique tout à fait étonnante sur la propriété privée. Et puis avec une culture tout à fait particulière, là encore, hein, beaucoup de chasse, beaucoup de choses qui sont étonnantes, mais l'utilisation de la tourbe, par exemple, pour le chauffage, l'utilisation, bien sûr, des roseaux pour faire le chaume. Voilà. Et puis, si on pense à la Camargue et à la culture particulière qu'elle révèle avec les chevaux sauvages, avec la présence de ruptures entre l'eau salée et l'eau douce, avec la présence d'espèces particulières, mais aussi de tout un mode de vie. Hein. Il suffit de se rappeler de ce film de Fernandel qui ramène son cheval en Camargue se souvenir liberté. À quel point on a ici un sentiment de liberté, un sentiment différent du reste. En plus, souvent, quand on est dans un marais, même sur une simple île, hein, quand on travaille, par exemple, j'ai travaillé sur l'Iléron au centre de la Loire, à côté de la région nantaise, voilà. Quand on est au milieu de l'île, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être au bout du monde. Quoi. Il faut une heure de marche pour aller d'un endroit à l'autre, au milieu des roseaux, au milieu d'une ambiance tout à fait particulière.
Effectivement, moi j'ai pu faire les îles et étudier le Castor près d'Angers. Tout à fait. C'est très impressionnant. L'île aux chevaux, qui est très proche, qui est complètement dans le centre-ville, à côté, on est dans une espèce de tranquillité étonnante.
Oui, c'est ça, on se sent isolé du monde et en même temps, on est dans une ambiance tout à fait particulière puisque cet isolement du monde nous confère en effet une situation tout à fait étrange.
Il y a en tout cas un point commun à toutes ces habitudes différentes, c'est finalement le fait que le marais fluctue et qu'il faut s'habituer à cela. C'est quand même une pression pour les populations locales.
Oui, toutes les populations locales ont toujours inventé la manière de supporter les crues, la manière de supporter l'invasion des eaux, avec des canaux qui sont travaillés pour, avec des trous, des tas de zones qui sont utilisées exprès pour l'épanchement des eaux, et l'écoulement aussi, qui peut être facilité à d'autres endroits. Mais ça génère aussi une certaine manière de vivre, hein, parce qu'il y a une lenteur de l'écoulement des eaux.
Une certaine lenteur, oui, tout à fait, dans les marais.
Et évidemment, cette particularité de la lenteur sur le marais est aussi associée au travail sur la barque, qui s'en va lentement sur le flot. On appelle ça des plates, parce qu'il faut évidemment que la barque puisse avoir très peu d'eau et fonctionner quand même avec un très faible tirant d'eau. On pousse ça à la perche, donc là aussi le mouvement n'est pas du tout le même mouvement. Bon, maintenant, de plus en plus sont utilisées des canottes avec un moteur hors bord, mais a priori, la promenade sur la rivière est tout à fait différente à la découverte du héron ou de la loutre, et dans l'ambiance particulière, on allait chercher la tourbe pour en faire le système de chauffage. C'est aussi dans ces marais qu'on va retrouver toute une culture très archaïque, puisque dès le néolithique, les marais étaient évidemment utilisé par tout un ensemble d'êtres humains.
Il faut aussi entretenir tous ces canaux. Il y a des effondrements de berges, c'est bien compliqué.
Oui, parce que c'est évidemment à l'interface entre la terre et l'eau. Donc on a des milieux qui sont extraordinairement fragilisés, et qu'il va falloir entretenir régulièrement. Il y a un vrai travail sur le marais qui se fait quotidiennement par les populations locales ou par les éléments, même si, en fait, contrairement aux apparences, la meilleure manière de faire que les choses ne s'effondrent pas, c'est souvent de les laisser s'effondrer, parce qu'elles vont trouver très très vite leur petit point d'équilibre. Alors souvent, quand on fait du réaménagement de berges, par exemple, on va utiliser des gabions, on va utiliser des morceaux de rochers, des enrochements, des choses de ce genre, du béton même, souvent, pour essayer d'aménager les gerbes, ou alors on va planter des pieux qui vont tenir des planches. Ces systèmes de tunage, par exemple, par pieux, doivent permettre d'empêcher la rive de s'effondrer. On peut aussi, évidemment, la végétaliser, la rive, parce que les végétaux vont maintenir les éléments en place, mais pas toujours, parce qu'un arbre mort, il peut aussi arracher la rive, hein, ça fait partie du mécanisme. Et donc, très très souvent, on pense que la protection des berges est nécessaire et pertinente. Or, c'est pas vrai. La meilleure protection des berges, c'est la protection végétale qui se fait petit à petit, lentement, dans des systèmes où l'eau va évidemment user les parties où le courant est plus fort, et puis, au contraire, ne pas toucher aux zones où le courant est le moins fort. Et là, un point d'équilibre va se trouver. Alors, évidemment, il y a toujours le risque qu'il y ait des obstacles à l'intérieur du cours d'eau, à l'intérieur de la zone humide, et qu'il faille évidemment réparer tout ça. Mais l'élément le plus génétiquement adapté et le plus écologiquement pertinent, c'est de laisser tout simplement la végétation vieillir. Ça, on ne sait pas faire, parce qu'on veut toujours couper, recouper, couper les arbres morts, enlever ceci, enlever cela, au nom de la protection, alors que très souvent, au lieu de protéger, on arrache des éléments essentiels.
Les politiques aussi envisagent d'autres solutions telles que les retenues d'eau.
Oui, la création de retenues, souvent pour l'agriculture ou encore pour faire des ouvrages qui vont soit maintenir participer au maintien du niveau d'étiage, participer aussi à faire qu'on a une ligne d'eau qui va tenir un peu plus le coup entre l'amont et l'aval. Toutes ces retenues ont barré les rivières, hein, les barrages, les étangs, tout ça ont complètement modifié le régime hydrologique de nos plans d'eau. Et évidemment, cette modification n'est pas du tout sans conséquences. Heureusement, il y a des espèces qui peuvent limiter ça. Mais on voit bien que tous ces différents éléments qui vont compartimenter la rivière, qui vont casser le flux, qui vont faire que des endroits lents, des endroits rapides, ne vont pas être forcément favorables lors des grands écoulements et lors des crues. Il faut laisser en fait la nature choisir quels sont les endroits où il faut qu'elle aille vite et les endroits et où il faut qu'elle aille lentement.
L'eau doit pouvoir se répandre.
Oui, alors qu'on fait des chenaux, on construit, on détourne le lit des rivières parfois pour fabriquer des sortes de canaux qui vont être empirés, donc c'est parfois catastrophique. Pensez par exemple aux éléments sous les autoroutes, hein, ce sont des grosses buses. Alors évidemment, ces grosses buses, elles se bouchent en moins de deux, puisque l'eau ne peut pas s'écouler. C'est des tuyaux qui se remplissent. Bon, tout le monde sait que quand on a des tuyaux, il y aura forcément à un moment donné des tuyaux qui vont se boucher. C'est le principe tranquille de l'évacuation des eaux par tuyaux. Alors que évidemment, ça ne se passe pas comme ça, si on n'a pas chenalisé, si on n'a pas empêché, évidemment, si on n'a pas détourné les rivières et si on n'a pas travaillé sur ça. En plus, l'impact, il est triple. Parce que quand on chenalise, on a l'impact au moment des travaux, où là, on met des pierres, on enlève, on coupe la rivière, en quelque sorte. Puis on a l'impact pendant les travaux, où là, on va détruire le milieu à grands coups de bulldozer pour faire le busage, etc. Bon, ce sont des impacts qu'on dit provisoires, donc qui paraissent pas très graves. Mais ensuite, on a l'impact final, qui, lui, est encore pire, puisque du coup, le mouvement des eaux ne se fera plus de la même manière. Alors, ils fabriquent des guets provisoires, on fabrique il peut y avoir des choses qui vont ralentir le flux au bon endroit, au bon moment, mais il faut toujours se méfier du travail humain, parce que par rapport à la force de la nature, évidemment, on en est très très loin.
Oui, mais en même temps, il y a besoin d'aménagement, puisqu'on sait qu'on s'est quand même beaucoup industrialisé, il y a beaucoup d'humains. Donc la problématique, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre l'entretien naturel ou pas.
Oui, le problème est visible, par exemple, dans les questions de drainage. C'est quoi la problématique ? La problématique, elle est simple. C'est qu'on considère que la zone humide, elle est non rentable, et qu'elle est malsaine. Donc on propose deux solutions. La première, c'est évidemment de la nettoyer. C'est le principe d'enlever les... Alors, ça a permis de limiter le paludisme, hein. C'est pas non plus négligeable. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on essaie de faire des transformations qui vont complètement la dénaturer pour que l'eau s'écoule, s'en aille le plus vite possible. Il faut jamais oublier que quand on envoie l'eau, on l'envoie toujours quelque part. Et que quand on draine dans un champ, on va forcément l'envoyer chez le voisin, dans le champ du voisin, dans la rivière à côté. Et qu'il faudra, à un moment donné, gérer ce drainage.
Il faudrait une vue globale.
Alors qu'il n'y a qu'une vue locale à chaque fois, l'ingénieur ou le technicien agricole vient, dit bah oui, votre champ est trempé, on va le drainer, on va mettre des beaux tuyaux, des fossés. Alors,
mais drainage... ça a des conséquences pour.
Voilà. Le drainage est essentiel. Il faut bien voir que depuis la nuit des temps, les humains ont fabriqué des fossés pour drainer tout un ensemble de milieux. Mais ce qui ne va pas de soi, c'est que ces drainages ont augmenté, ont été multipliés à cause des routes. On est en France, le pays qui a le plus de routes. J'ai vu plus d'un million de kilomètres de routes construites. On a énormément de fossés pour les villages, pour les villes. On a énormément de fossés dans les champs. Les fossés sans les arbres qui vont avec, c'est-à-dire sans les haies qui peuvent pomper l'eau, qui peuvent retenir tout ça, évidemment, c'est souvent des éléments de assez catastrophiques. En tout cas, tout ça casse totalement la fonctionnalité de l'ensemble de ces milieux, au point évidemment qu'on va avoir, à cause de ces drainages, des disparitions d'endroits importants. Alors le drainage a aussi été utilisé, par exemple, dans les zones humides de Hollande pour fabriquer les fameux polders, la polderisation, qui est en fait le fait de drainer des prairies pour en faire des prairies agricoles. Le problème, c'est que ces prairies agricoles, certes, peuvent permettre d'abriter du blé ou des cultures qui sont adaptées sur des terres sèches, mais en revanche, elles s'abîment très vite. Il faut leur apporter sans arrêt des amendements, des amendements chimiques, le plus souvent, ce qui conduit évidemment, là encore, à fabriquer des terrains qui sont de plus en plus abîmés, de plus en plus dangereux d'un point de vue biologique. Et en plus de ça, ils vont manquer d'eau, donc on va pomper l'eau à côté pour en remettre lorsqu'on fait du maïs ou autre chose, qui est quand même un paradoxe. Alors qu'il faudrait évidemment utiliser ces milieux humides d'une manière beaucoup plus...
Du lundi jusqu'au samedi, pour gagner des radis, quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule
ne coûte pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui affardent, qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. À tous prennent au bord de l'eau.
C'était Jean Gabin qui se promenait au bord de l'eau.
Les zones humides sont quand même un milieu fantastique et leur particularité est d'accueillir beaucoup d'espèces.
Oui, il y a une très forte biodiversité qui fréquente les marais, les marécages. On peut même dire que c'est les lieux essentiels pour la biodiversité. Alors, avec des espèces rares, on peut penser par exemple à ce petit étang à proximité de Donge qui accueille une petite population de guifettes noires, un oiseau relativement peu représenté en France par exemple.
Oui, il y a aussi des espèces comme la loutre.
Oui, la loutre d'Europe est une espèce essentielle parce qu'on va parler là d'espèces qui vont être des espèces clés du milieu. Alors, des keystone species.
Ah, keystone, c'est-à-dire ?
Ça veut dire des espèces clés de voûte de l'écosystème.
Elles sont très importantes, c'est des prédateurs, toujours.
On pense que ce sont des espèces qui, en quelque sorte, fonctionnent comme des clés de l'ensemble fonctionnel. C'est-à-dire, en quelque sorte, si elles ne sont pas présentes, la fonctionnalité du milieu est totalement altérée. Alors, l'étude avait été faite par un Américain, Payne, dans les années 60, qui avait montré que si on enlevait les étoiles de mer, qui était l'espèce clé locale d'un milieu particulier, du bord de la mer, d'un seul coup, d'autres prédateurs arrivaient, mais que c'était finalement le milieu s'appauvrissait, il y avait de moins en moins d'espèces, et finalement, les espèces qu'on voulait protéger en enlevant leur prédateur, qui était l'étoile de mer, ces espèces-là finissaient par disparaître. Avec la loutre, c'est un peu pareil. Pendant longtemps, on a considéré que la loutre était un vrai problème pour les écosystèmes, parce que c'est une espèce qui est piscivore, donc les pêcheurs ne l'aimaient pas trop, et pendant des années et des années, on a tout fait pour tuer la loutre. Eh bien, en fait, en tuant la loutre, on a aussi tué les populations piscicoles, parce que le prédateur va permettre plusieurs effets. Il a d'abord évidemment un effet dans sa prédation. La loutre n'est pas un poisson, elle n'est donc capable d'attraper que des poissons qui vont lentement. C'est souvent des poissons malades ou des poissons qui ne savent pas bien se cacher, donc des poissons qui, de toute façon, dans le milieu, sont en surnombre. Comme elle est présente, il va y avoir aussi une dispersion de la faune piscicole, c'est-à-dire que les animaux vont se spécialiser, certains dans des hauts fonds, d'autres dans des creux, d'autres dans des herbages, dans des herbiers, etc. La loutre va aussi faciliter la présence d'autres espèces de prédateurs, de petits prédateurs, comme le wisant d'Europe, par exemple, ou alors même les brochets, les grenouilles. Elle va aussi favoriser la présence de oiseaux d'eau, parce que dans ces milieux particuliers, même si les oiseaux d'eau peuvent avoir peur pour leurs petits, eh bien, il va y avoir suffisamment de dispersion pour que l'espèce puisse se maintenir tout ça. Et évidemment, ce système est tout à fait extraordinaire, à tel point qu'on sait qu'il y a, par exemple, une influence de la loutre sur les coquillages, une influence...
C'est indirect, en fait. C'est parce qu'il y a une interaction... Ce sont des relations écologiques.
Voilà. Oui, elle est la garante de tout l'ensemble fonctionnel qu'est le milieu. Et évidemment, cette garantie est tout à fait essentielle, puisqu'elle va sauver... Alors, on a fait, par exemple, une étude sur sa présence, et on s'est rendu compte que entre milieux où il y avait des loutres et des milieux où il n'y avait pas la loutre, eh bien, ça renforçait la présence des oiseaux, des amphibiens et des mollusques, aussi bien dans une analyse de type horizontale, c'est-à-dire comparer des zones à loutre et des zones sans loutre, que dans le temps, c'est-à-dire des zones où il y avait de la loutre et où la loutre a disparu, pour voir un peu quels étaient les effets sur la biodiversité.
Et autrement, comme autres espèces, on peut citer lesquelles ?
Alors, il n'y a pas que des bonnes espèces. Il y a aussi des espèces invasives qui ont pu s'installer. Ah oui. Par exemple, les écrevisses qui sont venues prendre la place de l'écrevisse à pattes blanches qui était sur les petits ruisseaux et les rivières. Et puis les marais, comme il y avait peu d'écrevisses en Europe, ils ont été très vite envahis par les écrevisses américaines qui ont pu, à partir de là, s'installer. Je pense par exemple à Procambyrus clarki ou encore Passifascatus. Ce sont deux écrevisses qui sont arrivées. Et puis, il y a très longtemps, il y avait Orconectes qui s'est installé. Mais il y a aussi des espèces fascinante. On a des oiseaux, on a la présence bien sûr du butor étoilé, par exemple, en Grande-Brière, qui est une espèce de héron relativement rare, peu connue au demeurant, mais qui a évidemment un rôle écologique particulier. Il ne faut pas oublier que la moindre grenouille a un rôle essentiel. Les grenouilles vertes, par exemple, vont être des consommatrices énormes de moustiques, elles vont générer ça. Et il ne suffira pas de dire qu'on va démoustiquer, parce que quand on démoustique, on tue tous les moustiques, ce qui fait qu'on peut laisser la place libre pour une espèce pionnière. Une espèce peut-être plus dangereuse que les autres. Alors que la grenouille, elle va manger toutes sortes de moustiques différents. Elle va donc répartir, elle va aussi les disperser dans le temps et dans l'espace, et donc va générer une structure qui est très différente.
Et pas de pullulation potentielle.
Mmh. On a aussi la présence de chiroptères, de chauves-souris, par exemple. On peut penser aux murins des marais, bien sûr, ou encore aux murins de Daubenton, qui sont deux petites chauves-souris qui sont parfaitement adaptées à tous ces milieux aquatiques, qui vont chasser les insectes spécialisés qui sortent de l'eau au bon moment. On a vraiment toutes sortes d'espèces qui
sont importantes. On a le castor aussi.
On a bien entendu le castor.
Qui fait quand même du ménage sur les rives.
Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est un peu comme la loutre tout à l'heure, où on avait une espèce qui était clé de voûte du système. Là, on a une espèce de type ingénieur. Alors, dans la réalité, toutes les espèces sont un peu ingénieures de leur endroit. Mm-hmm. Le hérisson construit sa petite niche, même la loutre, elle fait sa catiche, elle fait son petit lieu à elle. Mais le castor est bien connu pour tout ce qu'il peut faire. Ça veut dire qu'avec son travail à lui, il va en effet, là encore, organiser une rétention d'eau, mais une rétention d'eau peureuse qui va limiter les crues, qui lui permet d'être à l'abri dans un endroit donné. Puis il va aussi avoir un rôle très intéressant sur la flore, évidemment. La flore.
Et la repousse même de ces saules qu'il coupe. Hein.
Par exemple,
il y avait beaucoup de rejets de saules.
Tu connais bien le sujet, puisque tu l'as étudié pendant pas mal de temps. Et dans cette étude, tu avais pu montrer qu'une partie de la ripisylve pionnière s'installait d'une manière totalement différente dans les zones à castor que quand le castor n'y était pas. Et évidemment, c'est cette saule ripariale qui a une incidence importante à la fois pour le maintien de la berge et pour la présence du castor. Donc on a ici des utilités qui se mélangent, des fonctions qui se mélangent.
Et notre ami castor, ingénieur, s'adapte au milieu, puisqu'il construit des huttes différentes le long de la Loire par rapport à des endroits de marais beaucoup plus stables, où c'est carrément comme les images qu'on renvoie au Canada, où c'est des grosses huttes, des barrages très importants.
Dans les milieux ouverts, il va donc fabriquer la hutte totale, et puis dans les milieux un peu plus fermés, il va s'installer sur la berge et fabriquer ce qu'on appelle le terrier-hutte. Hein, c'est tout à fait typique. Tu avais fait de magnifiques photos de tout ça. Ah, il y a une autre espèce qui fabrique aussi des huttes, hein, c'est le rat musqué, mais qui les fabrique.
Lui, par contre, il n'est pas bienvenu.
Il n'est pas bienvenu parce que c'est une espèce canadienne qui a été implantée chez nous. C'est un intrus, mais ce n'est pas un vrai intrus, parce que c'est nous, c'est des êtres humains qui l'ont fait venir, qui ont décidé qu'il fallait du rat musqué chez nous. Et ce rat musqué, lui, va fabriquer sa hutte. Alors, il faut comprendre que c'est totalement lié au froid. Ce sont deux animaux, le castor et le rat musqué, qui sont capables de construire des huttes parce que précisément, ils vivent dans des milieux d'eau froide. L'eau étant très fraîche, très froide, ce sont des animaux qui vont fabriquer pour l'hiver une hutte dans laquelle les végétaux vont petit à petit se décomposer. Et en se décomposant, ils vont fabriquer une chaleur. Hein, ils vont participer. D'abord, il y a un écran thermique qui est fait par la hutte elle-même. Mais à l'intérieur de la hutte, nous avons également donc, cette production de chaleur qui leur permet d'avoir, de vivre d'une manière tout à fait différente.
Il y a d'autres espèces qu'on pourrait citer
Il y a par exemple le wison d'Europe, dont on a parlé.
Il y a bien sûr une espèce en voie de disparition.
Voilà, c'est notre panda à nous en France quand même, et il est tout à fait tributaire des zones humides. D'abord parce qu'il vit plutôt sur les petits ruisseaux que sur les grandes rivières, qu'il vit bien sur les petits ruisseaux plutôt boisés, mais qu'il a aussi besoin des prairies inondables, là où il va pouvoir chasser des grenouilles et autre chose.
Comme le putois aussi.
Comme le putois, comme d'autres animaux aquatiques du même acabit. Et ces petites espèces ont un rôle essentiel pour le maintien de la faune, mais aussi, je répète, sa dispersion, son équilibre avec toutes les autres espèces. Alors, le wison d'Europe est une espèce protégée au niveau européen. On est un des rares pays d'Europe à avoir encore une population peut-être viable de wison d'Europe. Il y a peut-être 200 individus, donc on avait fait une émission en septembre sur ce sujet, donc on s'en souvient bien. Le wison contre les patrons, puisque effectivement, on avait des patrons qui voulaient encore assécher des zones humides et utiliser des milieux fréquentés par le wison d'Europe pour fabriquer des espaces marchands. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'on a sans arrêt comme ça une répétition des pressions sur les zones humides, que ça soit pour un aéroport, pour fabriquer un étang, pour fabriquer une retenue d'eau, comme on l'a vu en Aquitaine. Enfin,
ça paraît inutile en fait.
Sans arrêt, il y a quelqu'un qui veut de toute façon assécher, drainer, lutter contre la zone humide, la détruire d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, la faune n'est ici que d'un faible poids par rapport à ce qu'il faudrait.
Mais rappelons quand même que effectivement l'eau peut se venger, et là l'humain a peut-être une raison de conserver ces endroits, ces milieux.
Oui, toutes ces transformations de zones humides occasionnent très souvent des conflits. On connaît par exemple le problème du barrage de Sivinsk, qui a été perçu comme un barrage agricole qui allait être utilisé. Alors, il y en a 70, un projet comme ça au moins en France, et qui effectivement a conduit à une lutte, à une ZAD, pour essayer d'empêcher qu'on puisse abîmer une telle zone, dont l'objectif était de contrôler l'étiage du Tescou, un petit rivière. Et ce projet de retenue, sur quand même plus de 12 hectares, avait comme principe essentiel de fabriquer une retenue d'eau pour les cultures qui sont quand même des cultures anciennes maintenant et un peu archaïques, comme celle du maïs par exemple.
Dans les zones humides, il y a aussi d'autres espèces, telles que le triton.
Ah oui, c'est très intéressant parce qu'on a des espèces ultra protégées comme le triton crété, par exemple, qui sont protégées au niveau européen, qui fréquentent dans le même lieu, dans l'ouest, par exemple, ici. On a le triton marbré qui vit à côté. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est que le triton marbré, c'est l'un des plus terrestre, il vit pourtant dans les zones humides bien sûr, et le triton crété c'est le plus aquatique de tous les tritons, et pourtant tous les deux s'hybrident pour fabriquer une chose absolument extraordinaire, un triton hybride que nous n'avons que en présence dans le Maine-et-Loire, en Mayenne et un petit peu aux alentours. Enfin vraiment c'est un tout petit point, et c'est tellement intéressant qu'il y a des chercheurs qui viennent du monde entier pour étudier ce petit triton dit triton de Blasius. On voit qu'on a affaire ici à des choses considérablement intéressantes.
Autrement, pour revenir au milieu, toujours cette interaction homme-milieu et autres espèces, le lac de Grandlieu est aussi un milieu spécifique.
Alors c'est un milieu tout à fait intéressant. Le lac de Grandlieu, c'est le dernier grand lac de plaine, c'est presque un milieu primaire. Il est à 13 km de Nantes, donc pas loin de cette grande agglomération nantaise, à 13 km au sud de Nantes, juste coincé à côté de l'autre aéroport qui existe toujours, c'est l'aéroport dit de Château-Bougon. Entre ces deux, entre la ville de Nantes et l'aéroport, donc, on a un lac particulier qui fait 60 km² à peu près, et qui est une zone humide naturelle, un creux qui s'est petit à petit rempli. Il a été sujet à plein de projets d'assèchement depuis le haut Moyen-Âge, notamment à l'époque de Louis XIV, par exemple, on a fabriqué un chenal qui allait de la Loire jusqu'au lac pour essayer de le vider, pour qu'il y ait le moins d'eau possible en été, pour que l'agriculture puisse s'en servir. Il y a eu je ne sais combien de centaines de projets d'assèchement sur ce milieu, pourtant primaire, remarquable, c'est un des rares milieux européens qui existe encore, c'est quelque chose d'unique, le lac de Grandlieu. Et puis, en dépit de tous ces projets d'assèchement, bon, il a servi aussi à ce que quelques avions, dans les années 1900, apprennent à tomber dans cet endroit. Et puis, il a échappé à tous ces éléments-là et il est resté.
Il subsiste, mais pourtant plein d'enjeux. Il est quand même le refuge de hérons, de loutres, de beaucoup de la genette, mais bon, c'est pas une espèce typique, mais quand même une rareté d'espèces, et aussi une présence autour de tout ce qui est agriculture, vigne, donc une pression humaine qui n'est pas simple hein,
oui,
sur des milieux de ce type.
Oui, parce que ce lac, comme tous les lacs de plaine primaire, sont des lacs qui ont présenté un tout petit creux au centre du lac, un tout petit creux d'eau, qui évidemment l'été est minuscule, enfin minuscule c'est quand même déjà un lac, hein, mais qui évidemment va s'étendre au fur et à mesure et va générer des milieux tout à fait extraordinaires. Ce sont par exemple les fameuses levées, qui sont en fait des maintiens de terre grâce aux racines des quelques saules qui réussissent à pousser dans le milieu humide, mais ces levées ne sont pas, c'est pas de la terre, c'est-à-dire que si on marche sur la levée, on a fait l'expérience
oui,
plusieurs fois, on saute dessus, ça fait bouger toute la levée, quoi, parce qu'elle flotte en quelque sorte sur la vase du lac, et l'été, donc le lac est immense, avec plein de prairies, et l'objectif a toujours été de limiter l'eau sur ces prairies le plus vite possible, donc au bout d'un moment, c'est dans les années 50, on a fait dynamiter le seuil rocheux qui permettait au lac de rester en eau pendant très longtemps. Et en dynamitant ce seuil rocheux, on a permis de faire passer l'eau dans le chenal, la chenot en fait, qui conduit toute cette eau à la Loire. Et donc maintenant, c'est un système de régulation humaine, anthropique, puisque ce sont les vannes qu'on ouvre ou qu'on ferme qui vont effectivement assécher ou pas le lac.
Et quel enjeu sur ces vannes, des
voilà,
fois.
Voilà, avec une pression considérable à la fois pour la chasse ou pour l'agriculture, qui font que pendant très longtemps, la gestion de ce lac a été une catastrophe. On ouvrait les vannes beaucoup trop tôt, donc on enlevait l'eau du lac, résultat, c'était un milieu sec. Il s'est donc envasé, abîmé à cause de tout cela, alors que c'est un milieu d'intérêt international pour la vie faune. Avec